Frère Jimmy, vous êtes moine bénédictin de Kergonan. Vous êtes à Rome pour parler du vol, de l'envol, de la chute dans la Bible. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Pourquoi? Comment?
Je suis à la Villa Médicis à l'invitation d'un ami écrivain qui est pensionnaire là-bas avec sa famille. Un ami que j'ai rencontré au monastère lorsqu'il venait écrire ses livres. Et il a tenu à m'inviter dans le cadre du Théâtre des Expositions où il diffuse un film en boucle sur le parachutisme tourné par Karl Bonisch. On a beaucoup d'émotions à regarder ce film où on voit des hommes s'élancer d'un avion dans le vide ou bien s'élancer de falaise pratiquant le base jump. On saute avec un parachute dans le dos, on se laisse tomber jusqu'à une certaine distance et on ouvre le parachute. Et je donne une conférence que j'ai intitulée « Le maître du ciel ». Le film en lui-même s'intitule « Les maîtres du ciel ». On désigne par là ceux qui pratiquent le parachutisme à haut risque. Et le maître du ciel, on pense immédiatement à Dieu, puisque dans la Bible, il est question de Dieu. Mais pas seulement, parce que le rêve de Dieu, c'est de voir aussi l'homme associé à cette vie céleste. Et donc, le maître du ciel, c'est aussi l'homme. Mais il le devient pas n'importe comment. Il le devient en accueillant la vie céleste, la vie qui vient de Dieu.
Vous allez jouer sur la double appartenance du ciel. Le maître du ciel étant Dieu, mais pouvant être aussi l'homme.
Oui, mais l'homme en dépendance de Dieu. On remarque que chaque fois que l'homme dans la Bible cherche à gravir le ciel, à atteindre le ciel par ses propres forces, il dégringole. On le voit dès les premiers chapitres de la Genèse avec Adam et Ève qui cherchent à être comme des dieux. C'est la chute. On le voit un tout petit peu plus loin au chapitre 11 lors de la tour de Babel. Babel, littéralement, porte de Dieu. L'homme dégringole. Alors, est-ce à dire que Dieu ne veut pas de l'homme au ciel? Pour ça, il faut lire toute la Bible pour répondre à cette question. On voit notamment à travers la geste d'Élie et de son ennemi juré Jézabel, quel est le tremplin nécessaire pour que l'homme puisse monter au ciel. Et ce tremplin, c'est son adhésion à la loi divine, son adhésion à Dieu. Élie est celui qui s'est toujours tenu devant Dieu, qui a toujours cherché à servir Dieu de tout son cœur et qui finalement ferme le ciel par sa parole. Donc il est le maître du ciel, il commande aux éléments. Et il ne meurt pas, il est emporté dans un tourbillon de feu, sur un char ou coursier de feu. Il a une fin triomphale et céleste.
Élie ferme le ciel par sa parole. Comment?
Le texte dit exactement qu'il ferme le ciel par la parole du Seigneur. En tant que prophète, il est celui qui profère une parole qui vient de Dieu. C'est une parole qui provient de Dieu. Le terme prophète, littéralement, veut dire celui qui dit devant ou celui qui dit à la place ou celui qui dit avant.
Alors, pourquoi ferme-t-il la porte?
Pour que la pluie ne tombe plus, pour qu'il y ait un châtiment sur le peuple. Signe que Dieu rejette l'idolâtrie. Et donc, l'ennemi d'Élie, Jézabel, qui est la reine idolâtre, connaît une fin tout à fait inverse à celle d'Élie. Elle est à sa fenêtre, le roi Jéhu arrive, elle sait qu'elle va mourir, elle se farde, elle s'habille comme une reine pour mourir comme une reine, et puis elle invective Jéhu qui en appelle aux eunuques, et les eunuques la jettent en bas. Donc elle fait un court vol, non planée, et elle s'écrase, les chevaux lui passent dessus, son sang éclabousse les murs. C'est la fin de l'être humain sans Dieu.
Il y a d'un côté dans la Bible des gens comme Élie qui s'envolent,
oui,
pour qui la porte du ciel s'ouvre,
mmh,
et d'autres qui descendent dans la terre, qui chutent.
Qui chutent parce qu'ils ne sont pas reliés à Dieu. On a par ailleurs des ouvertures du ciel ponctuel, éphémère, spectaculaire, notamment avec le patriarche Jacob, le fameux songe de Jacob au chapitre 28 de la Genèse, où il voit cette échelle dressée qui touche la terre et qui touche le ciel, et sur laquelle montent et descendent des anges de Dieu. On a le prophète Ézéchiel, les visions divines du prophète Ézéchiel, au bord du fleuve Kébar. On a saint Paul qui est ravi au troisième ciel et qui parle du paradis. Et là, on voit que par rapport au chapitre 3 de la Genèse, enfin au premier chapitre de la Genèse, que le paradis n'est plus seulement une terre, il est aussi un ciel. Jean Damascène en parle comme de la terre du ciel, que symbolisait la terre promise, ruisselant de lait et de miel, donc cette terre où on ne cultive rien, où l'on reçoit tout. Autre personnage biblique qui voit le ciel s'ouvrir, c'est saint Jean dans l'Apocalypse, où il entend cette voix « monte ici » et donc il s'élève au ciel de par grâce de Dieu. Ça, ce sont des montées ponctuelles, comme je le disais. Mais il y a une autre montée, moins spectaculaire, habituelle, qui est la montée progressive par la grâce de Dieu qui advient dans le Christ et qui est donnée aussi par l'Esprit Saint. L'homme monte au ciel par le pain qui descend du ciel et il est conduit au ciel par un autre souffle que le sien, qui est le souffle divin de l'Esprit Saint. Donc il y a une mendication du réel d'en haut et une éducation vers le réel d'en haut qui permet à l'homme de s'élever. Cette mendication, cette éducation sont préfigurées par la pluie de manne, par la pluie de caille. Ce qui m'a beaucoup frappé dans cette pluie de caille, c'est que les cailles montent de la mer et nous sommes dans le désert. Le livre de la Sagesse dit que cette montée des cailles de la mer était pour les oiseaux comme un nouveau mode de naissance. Je pense que les cailles ici préfigurent l'Esprit Saint, qui est souvent associé dans la Bible, depuis le premier chapitre de la Genèse jusqu'au baptême de Jésus notamment, à l'eau et à l'oiseau. Première préfiguration de l'Esprit Saint dans la Genèse, le souffle de Dieu qui plane sur la surface des eaux.
Le souffle, le vent, est-ce que c'est aussi le dénominateur commun de ces vols en vol et de ces chutes et descentes?
L'homme est à la fois terre, tiré de l'adama, la terre.
Le terreux.
Le terreux. Et il est aussi souffle. Dieu lui insuffle une haleine de vie. Je dirais qu'il est comme tiraillé entre la terre et le ciel. Par ce souffle qu'il a reçu, après la chute, il garde la nostalgie du ciel, la nostalgie de Dieu. Seulement, ce souffle est insuffisant pour l'élever. Alors le souffle de Dieu vient le prendre. C'est Romains 8, 14. Ceux-là sont fils de Dieu qui sont agis par le souffle de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Les textes bibliques jouent sur le mot « souffle ». En hébreu, c'est le terme « ruach ». Il peut désigner le vent, mais il peut également désigner ce souffle de Dieu. Il y a parfois une ambiguïté qui est voulue, parce que le souffle divin remplit l'univers. Il est créateur, et donc il se sert des éléments, et il se cache même derrière les éléments. Mais toujours dans le but de servir l'homme, de servir le salut de l'homme. C'est le rêve de Dieu depuis le début, la participation de l'homme à la vie divine.
Est-ce que ça vous a donné envie de faire du parachute? Est-ce que vous avez compris pourquoi les personnes aiment comme ça se jeter dans le vide? Quel est le sens de cet envol pour eux?
Il y a dans le film une image particulièrement significative. On voit un parachutiste qui s'enfonce dans la terre, une terre boueuse, dans laquelle il marche, mais péniblement. Et puis, en contraste, on a des images de grande liberté dans le ciel, avec beaucoup de joie, les visages rayonnent, les corps sont agiles. On voit donc la joie d'être dans le ciel, porté par l'air, la joie de n'avoir aucune attache, même si on a un parachute pour nous retenir de nous écraser. Je pense que ce besoin de vivre quelques instants dans l'air, dans une chute libre, manifeste, symbolise, représente le désir irrépressible qui habite le cœur de l'homme, qui est ce désir de vivre pleinement, de vivre dans les hauteurs, de vivre aussi de manière harmonieuse avec les autres. On voit que si certains se laissent tomber seuls d'un avion, d'autres sautent en groupe et réalisent de très belles figures dans le ciel. Il y a une communion entre les parachutistes qui dit quelque chose de ce désir de communion avec Dieu et entre nous. Where the road goes, where the day flows.